pour notre 12e émission, La Bougeotte, sur les ondes de Radio Galaxie. Christian Cailhol, notre baroudeur, va aujourd'hui nous faire découvrir la Haute-Savoie. Bonjour Christian.
Bonjour Francis.
Alors, par où commençons-nous cette fois-ci ?
Ah ben ce coup-ci, je vais commencer plutôt par vous parler du VTT. Mmh. En principe, je vous parle de blabla, tourisme, visite, tout ça. Là, je commence par le VTT parce que je vous emmène dans les Alpes, à l'appel des Alpages, c'est le titre de ma vidéo, que vous verrez sur radiogalaxie31.com ou sur mon site rando VTT vidéo comme d'habitude. Donc, je vous amène sur une manifestation très importante de VTT qui rassemble plusieurs milliers, en principe plutôt des chronophages qui désirent d'en découdre, mais parfois aussi, plus simplement, qui ont envie de profiter des paysages somptueux, de rouler sur des sentes d'altitude. Moi, c'est ce que j'avais envie, et j'avais envie de faire des images de VTT en hauteur, avec des paysages qui donneraient envie d'y aller, et puis de rouler, de profiter aussi. Qui sait si ça va se produire ? Je ne crois pas.
Mais pourquoi ?
En fait, nous reviendrons là-dessus à la fin. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus, si vous voulez, de ce que j'ai l'habitude de parler, c'est-à-dire des images touristiques que vous allez trouver dans ma vidéo. Alors, on est à la Clusa, on est en Haute-Savoie, donc je vais vous proposer de visiter un peu toute cette région. Mais on commence par la Clusa où se déroule l'épreuve de VTT qui s'appelle le Roc des Alpes, comme je vous disais tout à l'heure. On est presque en vue de Chamonix. Le Mont Blanc en toile de fond, pratiquement depuis les Sentes en hauteur, on pourrait presque le découvrir. Le Mont Blanc avec ses 4809 mètres, et non pas 807 mètres comme on l'a appris pendant des années à l'école. Exactement 4808 mètres 75, altitude revue depuis 2015, en considérant aussi qu'il y a entre 15 et 23 mètres de neige au sommet du Mont Blanc. Mais l'altitude fixée actuellement, c'est 4808 mètres 75. Voilà.
D'accord.
Donc, quand même le plus haut sommet de l'Europe occidentale. J'y ai traîné plusieurs fois mes crampons.
Oui.
Ça me rappelle pas mal de souvenirs.
Dans ta jeunesse d'alpiniste ?
Oui, ma vie d'homme d'alpiniste, j'ai fait 3 fois le sommet. Bon, c'est pas un exploit, attention. Hein. Mais bon, je suis content.
À l'époque, plus qu'aujourd'hui, peut-être ?
Non, même pas.
Non.
Mais dès la rando terminée, je n'ai qu'une envie, c'est monter à l'aiguille du Midi, puisque bon, le Mont Blanc, c'est fini pour moi. Mais monter au moins à l'aiguille du Midi, c'est un peu cher, je le reconnais. Mais on découvre tout, on arrive à suivre les grimpeurs jusqu'au sommet, on voit la trace. Pour ceux qui connaissent, le Tacul, le Mont Maudit, Valo, les Bosses, et puis de l'autre côté, la Dent du Géant, les Grandes Jorasses, la Vallée Blanche, enfin, il n'y a rien à jeter, quoi. C'est extraordinaire, ouais. Quand vous êtes tombé par beau temps, voilà.
Ouais. On y monte en téléphérique, on rappelle.
Vous montez depuis Chamonix, vous montez en téléphérique à l'aiguille du Midi. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas donné. Il y a un temps d'attente parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent le faire. Et voilà. Alors justement, pour ce qui est du Mont Blanc, il y a des chiffres assez révélateurs d'une surfréquentation. Je fais une petite parenthèse. Hein. Mmh. Environ 30 000 personnes par an se dirigent vers le sommet. Et en été, dans les périodes de pic, il y a à peu près 400 départs par jour. Et ça donne tout ça des projections assez alarmistes par rapport à la pollution, et les perspectives sont assez cauchemardesques. Bon, ça c'est une parenthèse, mais quand même on est sensible à ça, quoi. Hein. Alors ouais. c'est pas un exploit à faire le Mont Blanc, c'est pas un exploit, c'est un petit peu long par la voie normale, mais il suffit de mettre un pied devant l'autre. Alors il y a quand même un ou deux passages délicats. La voie normale par le Goûter, c'est vrai, il y a quand même le couloir du Goûter qui a des risques objectifs de chute de pierre. Quand même, surtout cette année, il y avait beaucoup de chutes de pierre qui sont tombées. C'est un peu dangereux. L'arête finale, un petit peu étroite, mais bon, quand on a le pied marin, ça va. Bon, donc ce n'est pas un exploit. L'exploit, celui qui l'a fait, c'est Balma qui a fait la première. Comme dans tous ces domaines-là, c'est la première qui compte, tout le reste ne sont que des secondes. Donc il n'y a que Balma qui a fait l'exploit de monter au sommet en 1786, et c'est lui qui a décroché la prime qui avait été offerte par Horace Bénédicte de Saussure, un naturaliste suisse qui avait promis donc une somme d'argent au premier qui grimperait. Et c'est Balma, accompagné de Paccard, il avait pris Paccard comme témoin, voilà, pour justifier son exploit. Et Balma, c'était un chasseur de chamois cristallier et guide qui a vécu jusqu'en 1834 à l'âge de 72 ans. Et le pauvre, il a fini dans une crevasse. Donc voilà, pour je tourne une page pour le Mont Blanc, parce que bon, donc, j'avais envie de faire des vues. Et vous en verrez sur ma vidéo, vous verrez des vues de l'aiguille du Midi et du Mont Blanc. C'est de belles images. Hein. La vidéo, elle s'appelle donc « Appel des alpages » et elle est sur mon site, Rando VTT Vidéo.
Voilà.
Après avoir écouté cette émission, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo et toutes les autres, il y en a plus de 160, et puis de les faire connaître si vous aimez, partagez avec vos amis.
Voilà, ça c'est important aussi. Ouais.
Merci.
Ouais.
Même si vous avez envie de m'écrire, on n'en parle jamais, vous pouvez m'écrire sur Radio Galaxie qui transmettra. Alors, pour continuer ce périple, c'est un bain de nature. Hein. Difficile de résister là-bas, où que vous alliez, vous tombez soit sur des gorges saisissantes, des cirques grandioses, des cascades impressionnantes, des lacs miroitants, enfin des splendeurs démesurées.
Ah oui, complètement. On voit d'ailleurs sur la vidéo certaines cascades, c'est vraiment impressionnant.
Ah ben justement, alors bon, j'y viens, effectivement, tu me fais une bonne liaison. La première que vous verrez sur ma vidéo, c'est la cascade d'Angon. Hein? C'est un canyon, pour les spécialistes, ceux qui aiment ça, c'est de la verticale. Et pour ceux qui aiment se promener et voir ce genre de choses de très près, c'est un chemin qui débute près du lac d'Annecy. Alors c'est un chemin très bien équipé, avec des marches, avec des cordes au bout, des chaînes pour se tenir. Et vous grimpez au plus près du canyon pour finir à la cascade la plus haute, cascade de 35 mètres, une verticale formidable. Depuis le bout du chemin, vous touchez presque la chaîne d'amarrage, vous n'avez plus qu'à mettre la corde. Ensuite, vous verrez sur ma vidéo la cascade du Rouget, elle est appelée la Reine des Alpes. Alors là, ça crache, hein, comme on dit, ça crache. C'est du volume, du débit. Elle bondit en deux chutes de 80 mètres de hauteur. Elle est au bord de la route, vous ne pouvez pas la rater. Quand vous allez du côté du cirque de fer à cheval, la cascade du Rouget, voilà, vous la verrez. Et puis, du côté de Chamonix, vous avez une des plus hautes, verticale, 270 mètres, la cascade d'Arpenas, très près de Salanches, à côté de Chamonix. C'est un site naturel qui est classé. Alors, on dit que quand elle coule vers la gauche, c'est signe du mauvais temps.
D'accord.
Voilà.
Et là, c'est le cas, sur la vidéo, non?
Il faut le regarder. Mais je m'attendais surtout que tu me demandes quand elle coule vers la droite.
Alors, quand elle coule vers la droite, c'est signe de quoi?
Quand elle coule vers la droite, c'est que le vent a changé de côté.
Et couillon, t'as oublié mon couillon.
Voilà, et couillon. Et tu devrais me dire, et si elle coule au milieu? Et bien, il paraît, il y en a certaines qui disent, à 6h30, comme les aiguilles du clocher, elle coule vers le bas.
Et qu'elle ne coule pas du tout.
Qu'elle ne coule pas du tout. Autre option que je n'ai pas étudiée. Alors, on a parlé de cascades, maintenant parlons des gorges. Des gorges, vous en avez partout. Mm-hmm. Mais je parle de gorges aménagées pour le tourisme. Hein, voilà. Les gorges du Fiel, c'est un canyon. Alors là, vous avancez à 25 mètres de hauteur sur des passerelles sécurisées. Ça vaut vraiment le détour. Hein. Vous êtes à 25 mètres de la rivière, vous vous demandez pourquoi ils ont fait si haute. Eh bien, en 1960, il y a eu une crue qui a dépassé les passerelles de 2 mètres. Donc, ouais. Voilà. Hein. Mais c'est un site romantique, malgré tout, et imprégné d'une légende. Alors, je vous la fais courte.
Ouais.
C'est le seigneur du château, on en reparlera, le château de Montrottier, qui est juste au-dessus, qui avait des doutes sur la fidélité de son épouse. Et il a demandé, elle avait un petit page qui était amoureux d'elle, elle a demandé à son page de la surveiller, et puis le page s'est rendu compte qu'elle prenait des rendez-vous avec un comte voisin. Alors le page, il les a tendus un piège. Il s'est rendu compte que le comte voisin, voilà, venait à cheval. Il s'est accroché à la queue du cheval du comte. Le comte, en sautant les gorges, a coupé la queue de son cheval où était accroché le jeune page, qui est tombé dans les gorges. Depuis, les gens du coin disent que certaines nuits, on entend des cris. C'est le page qui gémit au fond des gorges. La femme a été enfermée dans la tour du château. Voilà. Alors ensuite, vous avez en gorge aménagée, vous avez les gorges du pont du Diable. Alors là, vous avez une belle descente, c'est aménagé aussi. Hein. Le but, c'est de descendre un talus, enfin, voilà, 100 ou 150 mètres dénivelé, pour arriver aux gorges. Et là, vous descendez par des escaliers aménagés, bien sûr, et vous payez. Vous descendez à un pont naturel qui va d'une berge à l'autre, vous passez dessous, enfin, et vous ressortez un peu plus loin par un chemin. Il vous faut remonter tout ça. Il faut avoir envie de se taper tout ça.
Mais c'est beau.
Oui, c'est très beau.
Mmh.
Alors, plus près de Chamonix, les gorges de Diosas, toujours sur des passerelles, mais celles-là, elles sont aménagées depuis 1875. C'est, je pense, les premières gorges aménagées dans le secteur. Vous pouvez admirer le travail d'érosion, les cascades. Et puis, à savoir que ces gorges, en 2008, une équipe de sportifs décidait de les descendre en rappel, se sont fait bloquer par une crue dans la partie étroite où il y a un bloc coincé. Ils sont restés sur le bloc coincé. Ils ont appelé le secours par le téléphone. C'est l'hélico qui les a treillés sur 90 mètres. Le pilote devait savoir ce qu'il faisait.
Ouais, parce que là, c'est énorme.
Là, c'est du boulot. Ouais. Donc voilà. Et puis, dans le côté aquatique, moi, je vous conseille des lacs. Alors, surtout, le lac vert, vous le verrez à la fin de ma vidéo, en même temps que vous verrez l'aquarelle qu'a faite Nadine. C'est un lac, on y arrive en voiture. Hein. Mmh. Voilà, vous pouvez pique-niquer. Il est aménagé, on peut faire tout le tour. Il est vraiment vert parce qu'au fond du lac, il y a des algues bleues et qui lui donnent cette remarquable couleur vert émeraude. L'histoire, c'est que à une époque, certainement, on a pu faire prendre en photo le reflet du Mont Blanc qui se reflète dans le lac. Je pense que les sapins ont poussé et on voit plus le Mont Blanc. Maintenant, vous avez quand même un challenge pour ceux qui aiment faire les photos, les belles photos, les photos originales. Voyons si vous trouverez le reflet du Mont Blanc. Moi, je n'ai pas le trouvé.
Ouais, tu as fait le tour du lac, tu n'as pas trouvé.
J'ai fait le tour du lac et je pense que les sapins ont poussé, on ne peut plus faire le reflet.
Voilà. D'accord.
Bon, alors dans ces paysages grandioses, le Six Fer à cheval, c'est un site touristique majeur. C'est l'équivalent de Gavarnie pour les Pyrénées. Un immense cirque de 2 km de diamètre et délimité par d'imposantes falaises calcaires d'où jaillissent de nombreuses cascades. Vous pouvez rester en bas, vous pouvez marcher au fond du vallon, c'est pas obligatoire, aller au bout du monde, ce qui s'appelle le bout du monde, c'est pas une difficulté, c'est pas non plus indispensable. Rien que voir le cirque, c'est formidable, c'est quand vous êtes en bas de Gavarnie, vous voyez le cirque pour la première fois, on reste subjugué. Ouais. Un immense cirque de 2 km de diamètre.
D'accord.
Voilà. Et vous avez moyen de trouver de belles granges et des prairies fleuries, pour faire encore de belles photos avec le cirque en arrière-plan et les premiers plans avec les granges et les fleurs. Là, tout ça, vous arrangerez. Alors, dans le tourisme un petit peu qu'il faut chercher, où il faut barouder un petit peu, je vous conseille les blocs erratiques de Régnier. Alors, ce sont des dépôts calcaires qui ont été transportés par le glacier de Larves qui descend de Chamonix. Ils ont été transportés sur plus de 70 km. Et ce n'est pas des petits cailloux. Ce sont des blocs d'environ 5000 tonnes.
Ouf, en effet, oui.
Et qui datent de la dernière glaciation qu'ils ont transportée, et qui datent entre 30 000 et 10 000 ans. 5000 tonnes. Dans ce genre de tourisme un petit peu spécial, où il faut chercher, je vais vous parler de l'abri sous roche de la Balme de Tuy. Alors, bon, vous le trouverez sur les cartes. Pas pour faire des photos cette fois, parce que ça ne représente pas grand-chose. C'est au pied d'une falaise, vous avez un creux où, à l'époque magdalénienne, par exemple, ils sont allés y faire un camp. Mais en plus, ce n'est pas beau parce que c'est clôturé. C'est plutôt pour ce que ça représente. Il y a des recherches en permanence archéologiques, parce qu'il y a eu beaucoup de restes. Donc le site est protégé par un grillage. La porte n'est pas vraiment fermée, on peut s'approcher. Mais c'est plutôt pour ce que ça représente, et c'est l'occasion de rafraîchir ses connaissances. D'abord, ça a été un campement, il y a 10 000 ans. Puis, au Mésolithique, entre 9 000 et 8 000 ans, le climat s'est réchauffé, et ils se sont installés dans des huttes à côté de l'abri, pas dessous. Et puis, ils se sont sédentarisés. Ensuite, au Néolithique, entre 8 000 et 3 000 ans, le climat, il alterne périodes chaudes et froides. Et l'homme a inventé, à ce moment-là, l'élevage. L'abri a servi autant de bergerie que d'habitat. On y trouve les premières céramiques, des pierres polies qui n'ont pas remplacé le silex, parce que le silex, il taillait, il restait aussi efficace que les pierres polies, elles étaient plus jolies, mais il fallait beaucoup plus de temps pour les fabriquer. Le polissage demandait 20 fois plus de travail. L'usage des pierres ne s'est arrêté qu'à l'arrivée du bronze, c'est-à-dire on est à 2000 ans, 1800 ans, 1800 avant Jésus-Christ. Il a été trouvé des céréales carbonisées, dans le foyer qui prouve qu'il faisait de l'agriculture, l'agriculture qui a commencé vers 5500 ans environ. Ouais. Et vers 4500 ans, les premières poteries qui ont été trouvées dans cet abri. Et puis ensuite, vers 2005, ça a été l'âge du cuivre. Et à cette période, pourquoi l'abri a été abandonné, je ne peux pas vous dire pourquoi. Aucun objet n'a été trouvé à cette période. Ce n'est que vers entre 2000 et 1500 ans, l'âge du bronze, que réapparaissent les premiers foyers. Et quelques vestiges ensuite montrent l'occupation à l'âge du fer, 1000 ans, et des vestiges gallo-romains au 3e siècle après Jésus-Christ. Voilà, on a fait le tour, ça va toujours, vous suivez ?
Oui, oui, toujours. Je parle pour les auditeurs, on suit.
Bon, alors côté patrimoine bâti...
Alors tu pourrais rappeler où se trouve cet abri que tu viens de décrire.
L'abri, il se trouve à la Balme de Tuy.
Voilà, tout voilà. Simplement. Balme de Tuy, c'est un petit village, c'est quoi ?
Oh, oui, un petit hameau.
D'accord, ok.
Voilà. Juste avant, en y montant, vous verrez une grotte, genre grotte de Lourdes, mais en plus simple, un tout plus petit.
Oui, mais qui ressemble beaucoup, et beaucoup de ressemblances.
Un petit peu, oui.
Ouais, on voit ça sur ta vidéo. Ouais.
Ouais, oui, oui. Donc moi, j'y suis passé, même c'était un temps assez pluvieux. Il y avait des gens qui étaient arrêtés, ouais. Mais qui étaient venus porter des fleurs. Donc, c'est un lieu de pèlerinage un petit peu quand même. Ouais. Hein. Balme de Tuy, la grotte de la Vierge. Côté patrimoine bâti, le château de Miolens. Alors là, c'est une bastide savoyarde. Et quand on y arrive, on est ébloui. C'est un des mieux conservés. En Savoie, sur chaque sommet, il y a un château. Mais beaucoup sont en mauvais état. Vous en trouverez sur ma vidéo certains gédronnés. Et celui-là, il est magnifique. C'est un endroit qui donne envie de peindre. Par exemple, Nadine elle s'est arrêtée faire l'aquarelle.
Et tu peux rappeler, par rapport à Nadine, sur toutes tes vidéos, tes fins de vidéos, il y a toujours une aquarelle de Nadine.
Exact.
C'est qui, Nadine ?
C'est mon épouse, qui me suit partout. Sans elle, je ne ferais rien si elle ne m'accompagnait pas. Ce que je fais...
Et c'est une sacrée artiste, hein. il faut le dire.
Bon, merci de le dire, en tout cas. Hein. Oui, c'est...
De par les aquarelles qu'on voit sur tes vidéos, oui. de par toutes les expositions qu'elle fait, oui. Nadine Cayol commence à être connue chez nous. Non, il faut le reconnaître, il faut le dire.
Voilà. Oui, oui, oui.
Pour ceux qui s'intéressent aux aquarelles, vous pouvez vous renseigner davantage en te contactant ou en contactant sur ton site.
Oui.
S'il y en a qui veulent retrouver le calendrier de ces expositions qu'elle peut faire fin 2016 ou 2017, il suffit d'aller sur ton site et de te contacter.
Exactement, allez sur mon site, envoyez-moi un petit
mail.
Un petit mail, oui.
Ok. Alors la suite des événements, c'est quoi ?
On en était donc à Miolens, c'est pas fini là. Hein.
Non.
Donc on est impressionné par ces murailles. C'était une prison très redoutée, une des plus redoutées des États de Savoie. Et quand vous êtes à l'intérieur, il suffit de peu d'imagination pour s'imaginer, entendre les plaintes des prisonniers, les cliquetis des chaînes, les grincements des lourdes portes. Le marquis de Sade y a été emprisonné pas longtemps, 4 mois. Hein. Il s'est évadé. Mais il ne logeait pas dans les cellules. Il était au premier étage.
Oh,
il
ça
avait
va.
Un serviteur, le pauvre.
Ah oh, oui, bien sûr.
Et pour s'évader de là, si on n'a pas de complicité, c'est impossible. Mais bon, il s'est évadé, on ne l'a plus retrouvé. Un autre endroit, allez voir le château de Merle, commune de la Bâtie. Les ruines d'un château féodal, alors là, c'est pas payant, c'est rien. C'est juste que vous avez 3 bouts de muraille sur une petite... Ça vous fait une petite promenade, vous avez un quart d'heure de marche pour y arriver. Et sur un piton rocheux qui domine la vallée, c'est pas une forteresse de frontières. C'est un lieu de résidence où des personnages importants ont habité. Voilà.
Et en plus des ruines, souvent il y a un beau décor, un bon point de vue.
Vous avez un point de vue sur toute la vallée, voilà. Vous avez une table pour porter le pique-nique. Vous avez un beau point de vue sur toute la vallée.
D'accord, ok.
Des châteaux, je ne vais pas vous les citer tous, hein, il y en a beaucoup. Moi, je vous en propose quelques-uns. Je vous propose le château de Montrottier. On en a parlé pour les Gorges du Fier. C'est le château qui domine les Gorges du Fier, où il y avait cette fameuse légende. C'est une ancienne maison forte du XIIIe, et elle est devenue demeure de particulier depuis le XIIIe siècle. Il offre à la visite de son dernier propriétaire. C'était un collectionneur qui avait les moyens. Et il faisait des collections assez hétéroclites. Des armes, pas mal d'empires napoléoniens. Il a beaucoup de choses, notamment une des coiffes de Napoléon, son chapeau. Il y a aussi des objets japonais, anciens, des porcelaines. Voilà, c'est une association qui le fait découvrir. Il mérite.
D'accord.
Et alors, en Savoie, vous verrez aussi, en bord des routes... quelque chose d'assez original. C'est ce qu'on appelle les greniers forts. Ça vient un peu comme dans le Haut-Jura. Les fermes, elles présentaient un risque important d'incendie. Et pour ne pas perdre tous les papiers, l'argent et les choses importantes, les gens construisaient, à une trentaine ou quarantaine de mètres de leur demeure, une cabane très résistante avec une double porte solide, sans fenêtre, une cabane donc de quelques mètres carrés, dans laquelle ils entreposaient tous les objets de valeur. Ce qui fait que si la maison prenait feu, tout le reste était sauvé. Certaines même avec une cave dessous, où ils mettaient le grain et les légumes. Vous en rencontrerez de ça, de ce genre de trucs-là. Ouais, moi, ce que j'ai vu, ça fait quoi, allez, on va dire 4 mètres par 4 au sol, et ça peut faire 6 ou 7 mètres de hauteur.
On en voit une sur ta vidéo, d'ailleurs.
On en voit une sur ma vidéo. Ça s'appelle des greniers forts.
D'accord.
Là, maintenant, vous y ferez attention. Côté jardin, alors le jardin qui est vraiment mon coup de cœur, c'est les jardins secrets de veaux. Alors, c'est une mosaïque, c'est pas grand. Mais sur un petit espace, vous avez une douzaine de jardins différents, nés de l'imagination d'un couple. Alors, ce sont des jardins féeriques, beaucoup de fleurs, des fontaines, des sculptures, des boiseries, du fer forgé, des patios, des salons, un jardin andalou, un riad oriental, une pièce campagnarde, un raffinement oriental, une étonnante réalisation que je vous conseille fortement d'aller le voir. Je répète, les jardins secrets de Vaux.
D'accord.
Pas loin des gorges du Fier d'ailleurs. Alors, pour ce qui est du VTT, je vais revenir parce que je vous les ai laissé des points d'interrogation en début d'émission. Ça ne s'est pas du tout passé, ni comme je l'ai passé, ni comme vous le voyez sur la vidéo. Parce qu'il a plu comme si on me mettait un tuyau d'arrosage sur la tête. Pendant tout le début, à tel point que pendant j'ai fait ça, j'ai roulé une heure et j'ai cherché par tous les moyens à m'échapper et à rentrer au camping. Et puis, au moment où je faisais demi-tour, j'ai vu que ça commençait à s'éclaircir. Le beau temps arrivait. Et puis j'ai pris un itinéraire de rando où passaient d'autres vélos. J'ai suivi. Et puis j'ai fini sur demi-heure sous le soleil, dans la boue. Mais sous le soleil, vous le verrez sur la vidéo, vous allez dire, mais c'est pas possible, il n'y a pas plu. Si. D'ailleurs, vous verrez l'état de boue, vous verrez l'état des vélos. Voilà. D'accord. Donc, les belles images des alpages, il n'y en aura pas. Il y a de belles images, malgré tout, sur la fin, en arrivant, en revenant vers la Cusa. Mais pas de belles vies en hauteur, en roule sur les sentes, là, avec des paysages. Non, je suis désolé, il n'y en aura pas.
Mais pour la prochaine fois.
Je vous emmène la prochaine fois. Je ne vais pas dire où c'est. Nous visiterons un pays au cœur de pierre.
Oula.
À vous de voir.
Donc, chers auditeurs, rendez-vous pour le mois de novembre.
Exactement. En attendant, bougez, mais bougez en France. Et je vous dis à bientôt.
Merci Christian.
Merci Francis.